Donc, bienvenue à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présentes pour cette quatrième séance du séminaire interlaboratoire d'anthropologie d'Aix-Marseille. Avant tout, une rapide présentation de ce séminaire pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, il est né en 2008 et prenait à l'origine la forme de deux journées annuelles organisées autour d'un thème afin de regrouper les équipes de recherche des cinq laboratoires suivants, donc l'IDEMEC, l'IMAF, le CNE, le CREDO, l'IRASIA. Frédéric Sommade, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et membre de l'IDEMEC, ainsi qu'une équipe de doctorantes issues de chacun des laboratoires que je viens de citer, organisent collégialement ces journées en conviant des intervenantes d'horizons divers à donner une communication. Il s'agit ici pour nous de confronter les perspectives d'air culturel pour décloisonner le regard, favoriser la comparaison et l'interconnaissance. Le CILAM entame en 2018-2019 sa 11e année d'existence et un changement de format l'accompagne grâce à un nouveau financement. Pour cette session, ce ne sont pas deux journées de séminaire, mais cinq demi-journées et une journée finale sur le thème de, vous le savez j'imagine, la Méditerranée et le monde. Nous souhaitons nous interroger avec vous sur les relations entre la Méditerranée et le monde, sur les échanges, les processus de diffusion, de transformation et de mise en réseau qui traverse aussi bien l'espace méditerranéen qu'il ne le prolonge. Les flux et circulations qui caractérisent l'actuelle mondialisation, mais aussi le passé colonial, au sens large, de l'Antiquité aux années 50, et la diversité des situations post-coloniales ont fait partie de nos objets d'étude au cours des séances précédentes, que je rappelle rapidement. Le 14 novembre, nous avons eu une séance introductive pour réfléchir un peu globalement au concept de Méditerranée et d'enseigner avec le monde, avec Christian Monberger, Maria Cadera da Silva et Jean Boutier. Le mercredi 12 décembre, nous avons tenté de saisir les liens entre la Méditerranée et le monde via les pratiques alimentaires et les circuits de production et de produits, aidés en cela par l'expertise de l'historienne Ernestine Carrera et de l'anthropologue Boris Petric. Le 21 janvier, nous sommes allés au cœur de la période néolithique grâce aux travaux de Margaret Attenberg et Marjane Mascourt et de Maxence Bailly sur la diffusion des économies agropastorales. Et je peux d'ores et déjà vous convier à la prochaine séance qui aura lieu le 29 mars et nous permettra d'aborder les questions de religion en Méditerranée. Pour en venir à ce qui nous intéressera plus particulièrement aujourd'hui, il s'agit d'interroger à la fois les relations littéraires entre la Méditerranée et le monde et les relations épistémologiques entre littérature et sciences humaines. Émergent donc deux axes de réflexion qui se recoupent partiellement et que je vais tenter de vous présenter synthétiquement. En premier lieu, la thématique de cet après-midi peut nous amener à nous demander quels sont les liens entre fiction et réalité. Comment l'écriture se rend-elle à même de produire un effet de réel, ou plus encore épistémologiquement, de nous apporter un contenu ayant une certaine validité scientifique? Cette question est particulièrement lourde d'enjeux pour les anthropologues, comme l'a bien souligné Clifford Geertz dans son désormais célèbre article « La description dense ». Je vous en cite un extrait, dans lequel il dit que les écrits anthropologiques sont donc des fictions au sens où ils sont fabriqués ou façonnés, le sens initial de fiction, non parce qu'elles seraient fausses, qu'elles ne correspondraient pas à des faits ou qu'elles seraient de simples expériences de pensée sur le mode du comme-si. Il continue un peu plus loin. L'anthropologie existe dans le livre, l'article, la lecture, les expositions ou parfois de nos jours dans le film. En prendre conscience, c'est réaliser que la frontière entre la forme de la représentation et le contenu substantiel est tout aussi difficile à tracer en analyse culturelle qu'elle ne l'est en peinture. Et ce constat semble en retour menacer le statut objectif de la connaissance anthropologique, puisqu'il suggère que ses sources ne proviennent pas de la réalité sociale, mais d'un savant artifice. En 1973, Clifford Geertz, que l'on a pu considérer comme le père fondateur d'une anthropologie textualiste et herméneutique, nous rappelait donc que l'anthropologie n'a d'existence qu'à travers sa matérialisation par une écriture qui médiatise les données de l'observation en interprétation signifiante. En somme, l'écriture anthropologique, tout en ayant une vocation scientifique, a toujours entretenu des liens étroits, quoiqu'elle ait pu vouloir parfois s'en défendre, avec la littérature. Comment se négocient alors les rapports entre la fabrication d'un texte ethnographique et son exactitude, sa véracité? Le deuxième axe de réflexion porte plutôt sur la légitimité ou la pertinence à parler d'écriture de ou sur la Méditerranée. Il semble à ce titre intéressant de réentendre les analyses d'Edouard Saïd qui, si elles portaient sur l'Orient et non sur la Méditerranée, paraissent malgré tout pertinentes pour l'objet qui nous intéresse aujourd'hui. Je le cite. L'orientalisme n'est donc pas un simple thème ou domaine politique reflété passivement par la culture, l'érudition ou les institutions. Il n'est pas non plus une collection vaste et diffuse des thèses sur l'Orient. Il ne représente pas, il n'exprime pas quelque infâme complot impérialiste occidental destiné à opprimer le monde oriental. C'est plutôt la distribution d'une certaine conception géo-économique dans des textes d'esthétique, d'érudition, d'économie, de sociologie, d'histoire et de philologie. C'est l'élaboration non seulement d'une distinction géographique, mais aussi de toute une série d'intérêts. Un peu plus loin, l'orientalisme a plus répondu à la culture qu'il a produit qu'à son objet putatif, lui aussi produit par l'Occident. Ainsi, réfléchir sur l'écriture dans et sur la Méditerranée revient nécessairement à se questionner sur le contexte de production de ces écrits, leurs moyens et leurs objectifs. Dans quelle mesure l'objet méditerranéen, comme matière et résultat d'une certaine littérature, est-il pris dans des dynamiques politiques qui lui donnent un certain sens ? Qu'est-ce qui est retenu ou non comme appartenant à cette catégorie ? Et qui se retrouve en position décisionnelle de ces délimitations ? Il semble donc nécessaire de s'interroger sur les facteurs extérieurs au texte qui les informent et en tissent la trame. Finalement, les deux axes que je viens d'évoquer se combinent en un problème qu'illustre par exemple Lila Aboulougon dans « Écrire contre la culture, réflexion à partir d'une anthropologie de l'entre-deux », lorsqu'elle critique le concept de culture dans ce qu'il implique en termes d'essentialisation et d'exotisation. Je vous lis un extrait. Pour autant que les anthropologues œuvrent à donner des représentations de populations autres, à travers leur compte-rendu ethnographique, le degré d'altérité de celle-ci sera fonction de stratégies d'écriture adoptées par les anthropologues. Existe-t-il un moyen de raconter des vies qui réduisent l'altérité des autres ? Afin de nous pencher sur ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir nos trois intervenantes qui pourront chacun, une à leur tour, présenter leurs réflexions. Puis nous prenons un temps d'échange commun durant lequel nous aurons l'occasion de discuter ensemble sur toutes les questions suscitées, j'en suis sûre, par les interventions. Donc nous allons commencer avec la présentation, si vous le voulez bien, de Nicolas Adel. Alors, rapide présentation, Nicolas Adel est maître de conférences en anthropologie à l'Université Toulouse 2 et membre du LIST, Laboratoire interdisciplinaire Solidarité, Société et Territoire, également directeur de la revue Ethnologie française. Il consacre actuellement ses travaux à une anthropologie de la vie savante. Après avoir porté ses recherches sur le compagnonnage, il s'est orienté vers l'anthropologie des savoirs et l'étude de la notion de patrimoine culturel immatériel. Il a publié chez Michel Houdiard éditeur « Transmettre, quel patrimoine ?» en 2011 et « Anthropologie des savoirs » chez Armand Collin. Son dernier ouvrage, « Ce que la science fait à la vie », apparu aux éditions du CTHS en 2016. Donc Nicolas Adel, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et je vous laisse la parole pour 20-25 minutes.